Les archives d'Afrique, Alain Focat.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Je suis un homme discret. Parlons peu et travaillons davantage. Je voudrais qu'on remarque mon travail sur le terrain et non dans les dires et non sur les antennes de la radio. Je suis un homme du terrain.
Un homme du terrain confronté depuis 4 ans à la dure réalité de la gestion du pouvoir dans ce pays où règne une instabilité politique chronique depuis l'accession à l'indépendance. Dès sa première année à la tête de la Centrafrique, il a dû faire face à une tentative de putsch. Mais avec son conseiller, Mention, un ancien agent de la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure Française, il pense tenir le bon bout. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, André Kolimba.
Nous avons pris le pays dans un dénuement total où les bureaux étaient déserts, la caisse de l'État était vide. Dans les régions, dans nos provinces, il n'y avait plus de travail de champ. Les gens étaient poussés à ne plus travailler pour ne pas payer l'impôt. Et lorsque j'ai pris le pouvoir, nous nous sommes attelés vigoureusement à conscientiser le peuple centrafricain, à lui redonner la confiance, à relancer l'économie du pays. Et très rapidement, nous avons eu les résultats. Notre richesse s'est accrue de 8%. Le PIB s'est amélioré de 4%. La balance de paiement excédentaire. Nous avons eu un programme avec le FMI jusqu'à hauteur de 8 milliards. Nous avons, avec le Club de Paris, eu le rééchelonnement de nos dettes sur 10 ans avec un délai de grâce et les rapports nationaux et les rapports internationaux le prouvent. Donc, nous avons fait un effort jusque-là. Et nous entendons garder cet acquis et le poursuivre avec l'actuel gouvernement.
Si André Kolimba affiche un certain optimisme quant aux performances économiques qu'il aurait réalisées, dans le même temps, les indicateurs économiques de ce petit pays restent résolument dans le rouge. En 1984, le déficit budgétaire est de l'ordre de 11 milliards de francs CFA. Malgré une légère amélioration dans l'exportation des diamants, de coton et de café, la situation économique reste mauvaise. Mais la Centrafrique souffre surtout de la guerre qui sévit au Tchad voisin.
La Libye trouve que la République centrafricaine a une très bonne position géographique. Tout autour de la République centrafricaine, nous avons le Soudan, le Zaïre, le Tchad, le Cameroun, le Congo, et ça c'est très important. Pour eux, c'est une position stratégique, c'est une position très importante pour leur permettre d'avoir des tentacules un peu partout. Donc, ils recherchent aussi, ils recherchent d'abord à avoir la mainmise sur le Tchad et descendre tranquillement s'asseoir en République centrafricaine. Enfin, ça, je peux faire une mauvaise analyse, mais toujours est-il que nous prenons nos précautions.
Pourtant, en novembre 1984, les commandos rouges tchadiens font irruption sur son territoire. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés va dénombrer jusqu'à 30 000 réfugiés tchadiens sur le sol centrafricain en 1984.
Mon soutien à Hissène est total.
C'est-à-dire, si il part à la reconquête du Nord, vous l'appuyez?
Il faut absolument que Hissène Habré ait l'unité nationale. Je crois que c'est ce qu'il recherche.
Est-ce que
où est le mal?
Non, je ne dis pas, moi je ne porte pas de jugement, mais je veux dire, vous l'appuyez, vous dites...
J'appuie sans réserve le président Hissène Habré afin qu'il recouvre l'unité nationale.
Le guide libyen Muammar Kadhafi ne s'encombre pas de diplomatie ou de la forme pour marquer, pour manifester sa volonté d'étendre son influence sur la Centrafrique en même temps que le Tchad. Il apporte son aide à l'opposition au régime centrafricain.
Les Bozizé là, qui sont en France en ce moment, là, ils vont régulièrement là-bas, en Libye. Ils reçoivent de l'argent, Patassé aussi. Et ils disent là-là aussi. Ça, tout le monde le sait.
En réalité, se joue en Centrafrique, comme au Tchad, une guerre de sphères d'influence entre Paris, qui soutient encore André Kolimba, et la Libye qui souhaite prendre sa place. Mais Kolimba joue, malgré cet appui, la carte de la prudence.
En mon âme et conscience, je n'ai pas encore jugé le temps opportun pour claquer la porte, pour fermer la porte aux Libyens ici. Donc c'est une décision personnelle. Je veux voir jusqu'où ils vont pour me permettre de fermer définitivement l'ambassade libyenne.
En ce mois de septembre 1985, André Kolimba a décidé de dissoudre le comité militaire de redressement national qui gouverne le pays depuis son accession au pouvoir en 1981. Il nomme un nouveau gouvernement comprenant 13 civils et 10 militaires. Mais l'armée conserve l'essentiel des postes clés. Le général Kolimba devient ainsi le président de la République. Il conserve les fonctions de chef de gouvernement et le portefeuille de ministre de la Défense. C'est un peu le signe de démocratisation du régime qu'il veut montrer, puisque dans la foulée, il va libérer 89 prisonniers politiques. Jeudi 27 mars 1986. Un Jaguar français s'écrase au décollage sur un quartier populaire de Bangui. Bilan, 35 morts et des dizaines de blessés. L'appareil étant tombé sur une école coranique, de nombreux enfants figurent parmi les victimes. Le pilote, lui, a réussi à s'éjecter. Cet accident va aussitôt déclencher de violentes manifestations anti-françaises, des échauffourées dans la capitale Bangui.
Accident, émeute et début de panique à Bangui, capitale de la République centrafricaine, où sont basées une partie des Jaguars et des Mirages français assurant la dissuasion militaire au Tchad. Victime d'une panne au décollage, un avion de combat Jaguar s'écrase sur un faubourg populaire de Bangui, provoquant un véritable carnage, 22 morts, parmi lesquels de nombreux enfants d'une école coranique et une trentaine de blessés. Quelques minutes après l'accident, une violente manifestation anti-française se déclenche dans les rues de la ville. Pendant 2 heures, les émeutiers jettent des pavés sur les voitures conduites par des Européens. Une cinquantaine de Français, pourchassés par la population, se réfugient à l'ambassade. Le témoignage du chargé d'affaires français à Bangui, Jean-Pierre Vidon, interrogé par l'AFP.
Quelques Européens ont été pris à partie et leur véhicule lapidé. Il y a quelques blessés légers. Absolument rien de grave dans ce domaine. Bien, ma connaissance, les manifestants se sont pris simplement aux Européens qui passaient. Ma connaissance, il n'y a pas eu de slogan anti-français. Calme est revenu. Le chef de l'État centrafricain vient de s'exprimer sur les ondes pour appeler la population au calme. Il a rappelé notamment comment il a justifié la présence des forces françaises RCA, comme il l'avait déjà fait il y a plusieurs semaines. Et il a demandé à la population de laisser aller à des réactions de haine raciale, rappelant que la Centrafrique avait toujours été un pays d'hospitalité. Immédiatement après cette allocution du chef de l'État, le texte du message de condoléances envoyé par le président Mitterrand a été rendu public sur les ondes de Radio Centrafrique.
Cet incident qui rappelle la forte présence française sur place à Bangui va être rapidement calmé par le président André Kolimba, qui dit malgré tout comprendre la colère des populations.
N'importe qui aurait réagi de même. Ça, ce sont des réactions humaines et sur le coup. Et ça n'a pas duré plus de 2 heures du temps. Vous demandez à tous les Centrafricains ici.
Vous n'avez pas l'impression qu'il y a de sentiments anti-français dans votre population ?
Non. Non. Du côté de l'opposition, les aigris qui se trouvent chez vous là-bas en France, oui.
Il faut rassurer Paris. Surtout ne pas se fâcher avec la France, qui est à ses yeux le garant de la sûreté de son régime.
On a commencé avec la France. Ce n'est pas du jour au lendemain que je vais me retrouver, c'est pas moi, avec d'autres pays que je n'ose pas citer. Mmh. Hein, le peuple centrafricain connaît ce que la France fait pour lui. La France intervient dans beaucoup de domaines. Pour ne citer que quelques-uns, je crois que la France intervient dans l'aide budgétaire, à notre demande. La France intervient par la Caisse centrale de coopération économique en nous donnant des crédits de développement. La France aussi, on trouve beaucoup de coopérants français à l'enseignement. Et sur la place ici à Bangui, la plupart des commerçants, des investisseurs sont des Français. Bon, au plan militaire, nous avons 2 catégories de militaires ici. Nous avons l'AMT et l'FAO. L'AMT, c'est l'assistance militaire technique qui encadre nos armées. Bon, nous avons...
Qui encadre ou qui entraîne ?
Qui encadre et entraîne nos armées. Bon, et nous avons aussi les FAO, les éléments français d'assistance opérationnelle, qui sont là pour une mission bien déterminée. Donc tout ça, tous ces rapports se baignent dans une fraternité d'armes, se baignent dans une fraternité au sens général et avec une confiance réciproque. Je crois que les rapports entre la France et la République centrafricaine sont excellents.
Cet accident coïncide un peu avec une grève des lycéens, mais elle ne parvient pas à perturber la création du parti unique qu'il veut imposer. Le Rassemblement démocratique centrafricain, RDC.
Afin de permettre à la nation tout entière de participer au plan de rénovation institutionnelle, un grand rassemblement démocratique doit permettre à tous et à chacun de faire part de son expérience et d'exprimer ses opinions tout en respectant celle des autres. Pour cette raison, le Rassemblement démocratique centrafricain doit accueillir en son sein les diverses parties de la nation tout entière et rejeter sans appel ceux qui chercheraient, par des voies détournées, à imposer une doctrine totalitaire ou à entraîner les consciences sur la voie des idéologies en faillite. Un peuple uni derrière son chef, un État fort, une économie prospère, représente un bien inestimable pour la nation. La République centrafricaine doit trouver son modèle de démocratie en dehors des préjugés et des mythes. Privilégier l'ordre et l'efficacité nous protégera de la dictature et des dérapages de la liberté. La démocratisation se fera chez nous avec l'effet du décalage horaire. Les institutions qui marqueront le renouveau centrafricain porteront l'empreinte de notre identité. Les principes constitutionnels d'un État de droit que je viens de vous exposer trouveront leur consécration dans la nouvelle constitution qui sera soumise au référendum.
1986. Bokassa, qui vit en exil en France depuis 1983 dans son château d'Ardricourt, après une période de grande vie qui convient mieux à son lieu de résidence, l'ancien monarque, qui jusque-là signe empereur Bokassa Ier, est ruiné et endetté. Il a aussi été floué par quelques hommes d'affaires et politiques véreux. Le soudard n'a plus pour seul revenu que ses 7000 francs français de pension de retraite de l'armée française. Un peu moins de 1200 euros. Une misère qui ne peut entretenir une famille de plus de 30 enfants, plusieurs épouses et un château. Entre-temps, Bokassa écrit un livre intitulé « Ma vérité » dans lequel il décrit sa relation avec le président Valéry Giscard d'Estaing. La justice française va l'interdire pour atteinte à la vie privée de l'ancien président. En réalité, Bokassa ne peut plus supporter cette vie, surtout que certains de ses amis proches de l'extrême droite fasciste lui laissent croire que son retour est souhaité par son peuple. Un argument pour le faire partir pour récupérer le peu de biens immobiliers qui lui reste. Mais le gouvernement français, qui redoute de nouvelles émeutes à Bangui, ne souhaite pas officiellement le laisser partir. Là, Bokassa s'énerve.
Moi aujourd'hui, si je veux aller dans mon pays, je dois y aller. Je ne pense pas du tout au blocus de la France. La France n'a aucune raison pour me maintenir ici. Moi, si je ne pars pas encore, c'est parce que je voudrais laisser une certaine expérience se manifester. Actuellement, il faut voir que chez moi, le peuple centrafricain pleure. Il me réclame. À l'avenir, je rentrerai dans mon pays.
23 octobre 1986. L'empereur Bokassa Ier, fauché, pillé par ses anciens courtisans, excédé par le mépris dont font preuve les Français à son égard, décide de retourner en Centrafrique. Paris, qui depuis quelque temps s'opposait à cette décision, le laisse prendre l'avion. Il est accueilli à l'aéroport par la police qui le conduit directement en prison. Le président André Kolingba réagit à ce retour inopiné.
Bokassa est arrivé en Centrafrique sous un faux nom. Le jeudi 23 octobre, il avait pris pour nom Christian Solé. Sa déception a été grande de ne pas avoir été acclamé comme il espérait. Il a été aussitôt arrêté et écroué. Vous savez bien qu'il n'est pas un prisonnier ordinaire. Il porte, en effet, la lourde responsabilité d'une page très sombre de notre histoire. À ce titre, il est l'instigateur et le témoin de nombreux événements dont nous devons tirer les leçons pour l'avenir de notre pays. Il est évident que ce retour pose de nombreux problèmes. J'avais dit que ce dernier avait fait beaucoup de mal à notre pays. Il avait fait couler beaucoup de sang. Je prévoyais déjà que son retour réveillerait la haine. Il va sans dire que l'intention manifeste de Bokassa est de déclencher des remous en Centrafrique. Il tente de perturber la paix et la sécurité. Il veut entraver notre politique de redressement, de réconciliation et d'unité nationale qui porte déjà ses fruits. En d'autres termes, il souhaite replonger le Centrafrique dans le chaos. Soyez sûrs, je ne le laisserai pas faire.
Que va faire le président André Kolingba de ce prisonnier plutôt encombrant? Risque-t-il de raviver les tensions dans un pays dans lequel une paix apparente semble régner depuis quelque temps? Le président André Kolingba parviendra-t-il à réaliser la réforme constitutionnelle sur laquelle il travaille depuis plusieurs années déjà et qu'il veut soumettre à référendum en cette fin d'année 1986? On en parle dans une dizaine de minutes dans la suite de cette série d'Archives d'Afrique spéciale André Kolingba, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et on se retrouve très vite.
Archives d'Afrique, Alain Foka.
Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Nous étions dans la région cynégétique. Bon, J'étais avec les éléments de la sécurité. Et nous sommes tombés sur des braconniers avec des chameaux qui étaient bondés de pointes d'éléphant et de peaux. Et nous avons atterri pour les arrêter et ils ont ouvert le feu sur nous.
Ils ont ouvert le feu sur le président.
Ils ont ouvert le feu. C'était pas le président, c'était un individu qui était là. C'était le président et nous étions là. Ils ont ouvert le feu sur nous. Et on a riposté et ils ont pris la fuite.
Il s'est toujours défini comme un homme de terrain. Et des anecdotes comme celle-là, il les raconte volontiers. Mais sa plus grande inquiétude en cette fin d'année 1986 est celle du retour inattendu de Jean Bédel Bokassa Ier, condamné par contumace par la justice à la peine de mort, qui a décidé de retourner au pays, convaincu que son peuple le réclame. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, André Kolingba.
Bokassa, la période de Bokassa, ça nous a laissé des souvenirs tristes que je ne voudrais pas encore retourner la plaie des séquelles de Bokassa. Tout le monde en est marqué, il a laissé des familles en deuil dans ce pays.
Mais en attendant de traduire l'ex-empereur devant la justice centrafricaine, on vote partout dans le pays en ce mois de novembre 1986. Le peuple se prononce sur le projet de constitution concocté par le président André Kolingba. Une constitution de type présidentiel qu'il soumet à référendum.
1 à 2 heures de queue pour voter ce matin à l'école Koudoukou dans un quartier populaire de Bangui. Indéniablement, la participation à ce référendum semble très forte. Les Centrafricains votent dans le calme. 5 ans après le dernier scrutin, il a fallu refaire les listes électorales avec bien sûr quelques imperfections. Mais pour éviter tout cafouillage, chacun pose son pouce sur un tampon encreur. Tant pis pour les petits malins qui voulaient voter 2 fois.
Le président André Kolingba est ravi. Le scrutin se déroule comme il le souhaitait.
Je ressens la satisfaction d'avoir contribué efficacement et concrètement à l'édification de la nation centrafricaine. Il est de notre devoir de penser à l'avenir de ce pays, à l'avenir de la jeunesse à qui revient de droit à l'avenir de la République centrafricaine. Donc je suis très heureux de voter ce matin.
La nouvelle constitution est finalement adoptée à plus de 91% des votants. André Kolingba est élu dans la foulée pour 6 ans à la tête de la Centrafrique. Le Parlement qui devait être installé en 1987 est formé de l'Assemblée nationale dont les députés sont élus au suffrage universel direct pour 5 ans. Mais il faut noter dans la victoire d'André Kolingba que 25% des suffrages dans la capitale lui étaient hostiles. Il se sent tout de même conforté, légitimé, ce qui lui donne la latitude pour civiliser un peu plus son gouvernement. Ce qui passionne les Centrafricains en particulier et les Africains en général en ce début d'année 1988, c'est l'ouverture du procès de l'ancien empereur qui n'a pas reçu l'accueil qu'il attendait en rentrant à Bangui. Il a demandé et obtenu de la Cour suprême un procès juste et équitable. Bokassa s'en réjouit à l'avance. Il compte en profiter pour régler ses comptes, surtout avec son ami et frère Valéry Giscard d'Estaing. À son arrivée au tribunal, il annonce tout de suite la couleur.
Je me présente aujourd'hui volontairement devant mes juges. En 1979, Valéry Giscard d'Estaing, alors président de la République française, a détourné l'armée de la République française de son devoir, organisant un coup d'État qui a violé la souveraineté nationale de mon pays. On m'a présenté comme un cannibale, un assassin, un anthropophage, un voleur, un traître à la patrie. Je suis donc revenu à Bangui, seul, sans poser de conditions ou exiger de garanties. Je savais que je serais arrêté, mais je suis un soldat. Et un soldat ne se dérobe pas quand il s'agit de son honneur.
Mais si Bokassa se sent plutôt prêt à affronter la justice, il ignore à cet instant-là que ce qu'on lui reproche est aussi grave et important. Il pèse sur l'empereur 100 de chefs d'accusation, dont celui de cannibalisme. On l'accuse de raffoler des chairs humaines grillées fourrées aux bananes et le cœur confit. Mieux, il aurait fait une cure de rajeunissement à base de testicules d'enfants de moins de 15 ans, ou encore il aurait jeté des prisonniers aux crocodiles nageant dans sa piscine hollywoodienne. À charge, on fait venir un témoin du nom de Lingisa, ayant perdu ses facultés mentales et physiques. Pour parvenir à la barre, il est soutenu par 2 militaires. Lingisa raconte de façon incohérente comment il a été forcé de flamber un cadavre au djinn avant de le servir à l'empereur, qu'il a invité à le déguster avec lui. Mais toutes ces accusations, trop souvent fantaisistes, vont s'avérer fausses, notamment l'accusation de cannibalisme, d'anthropophagie, qui ont été soigneusement inventées par certains de ses anciens amis français, désireux de le rendre définitivement infréquentable et inaudible. Mais sur Bokassa pèsent tout de même de nombreux chefs d'accusation plus sérieux et plus palpables. Le procès de Bokassa Ier va durer 7 mois avant que le procureur ne prenne la parole pour son réquisitoire.
On ne peut pas trouver une autre condamnation à l'encontre de Bokassa. C'est la sanction la plus extrême et c'est la dernière sanction. La dernière sanction, monsieur, c'est la peine capitale, c'est la peine de mort.
Comme toujours, Bokassa encaisse, puis réagit. Il garde une certaine confiance à ce moment-là encore. Pour lui, il est responsable, mais innocent. Une formule qui connaîtra plus tard, à quelques encablures de là, une légère modification.
Je suis revenu au pays pour être jugé. Au cours de ce procès, j'ai découvert des crimes auxquels je suis étranger. J'affirme être innocent des faits qui me sont reprochés. Je remercie mes avocats. J'ai confiance dans la justice de mon pays.
Malgré ce vibrant plaidoyer, le verdict tombe raide comme un couperet.
La très grande majorité des membres de la Cour ne trouve en la cause aucune circonstance atténuante. Condamne Jean-Bézère Bokassa à la peine de mort, à 6 millions de francs d'amende, à la confiscation de ses biens, jusqu'à concurrence de 3 143 473 300 francs, au profit de l'État centrafricain.
Le peuple centrafricain, en novembre dernier, a voté, a conçu et voté démocratiquement une constitution et qui prévoit la séparation des pouvoirs. Et le cas de la justice centrafricaine qui fait son travail en ce moment. D'autre part, nous devrions laisser toute latitude à la défense d'épuiser d'abord toutes ses ressources avant de penser ou d'envisager une telle alternative. Nous ne pouvons pas anticiper.
Le président André Kolumba va accorder quelque temps après la grâce à Jean-Bédel Bokassa. Sa peine est commuée d'abord en travaux forcés à perpétuité, puis convertie à 10 ans de prison. Son avocat salue le geste du chef de l'État.
C'est d'abord une réaction de soulagement, puisque c'est toujours un soulagement de savoir qu'un homme qu'on a défendu ne sera pas exécuté. Et puis c'est une réaction aussi de penser que c'est une décision juste qui vient d'être rendue par le président Kolimba. Parce que je pense que Jean-Bédel Bokassa ne méritait pas d'être condamné à mort. Je pense que d'abord le procès a montré qu'une grande partie de la légende et des accusations qui étaient portées contre lui, à l'examen des faits, ont été largement minimisées. C'est-à-dire que toutes les légendes que l'on disait en France, Bokassa anthropophage, Bokassa assassin d'enfants, eh bien la cour criminelle de Bangui a su faire la part des choses. Jean-Bédel Bokassa avait été acquitté pour anthropophagie, n'avait été poursuivi que pour complicité de coups et blessures volontaires dans l'affaire de la mort des enfants à la prison de Ngaraba. Il n'avait pas été poursuivi pour les massacres de janvier, et le procès a démontré à la société centrafricaine qu'il n'avait pas une responsabilité pleine et entière de tout ce qui s'était passé en Centrafrique. Et je pense que, outre les sentiments humanitaires qui ont pu guider le chef de l'État, je pense que cet élément aussi a pu être pris en compte.
En cette année 1988, André Kolimba, conforté, effectue la traditionnelle visite des chefs d'État francophones à Paris. Il est reçu par le président François Mitterrand à l'Élysée.
Monsieur le Président, aujourd'hui je me trouve ici en France, alors que dans quelques mois, dans quelques semaines, votre mandat arrivera à sa fin. Vous avez tenu
à me recevoir ici. Il est vrai, j'ai eu des obligations nationales qui ne m'ont pas permis de répondre tout de suite à votre invitation. J'avais à mettre sur pied les institutions du pays. Aujourd'hui, j'estime que la République centrafricaine est devenue un pays de droit.
C'est vite dit, puisque en Centrafrique, c'est une grande partie de la population qui dénonce le népotisme, le tribalisme qui prévaut dans l'appareil de l'État. Pire, le gouvernement à son tour cumule plusieurs mois d'arriérés de salaire pour les fonctionnaires, ce qui bien sûr suscite un mécontentement général de la population. On va désormais, en ce début d'année 1990, de grève en manifestation violente.
Depuis samedi, on ne compte plus les agressions tant sur les personnes que sur les biens. Les entraves à la liberté d'aller et venir dans certains quartiers. Les menaces de mort proférées à l'endroit des citoyens qui refusent la violence. Le bilan à être lourd. Plus de 40 blessés suite aux diverses agressions dans la rue. Des diplomates accrédités dans notre pays agressés. Plus de 100 voitures endommagées. Plusieurs magasins pillés et détruits. Des tentatives d'incendie sur des maisons privées. Des bâtiments administratifs saccagés. Et tout cela avec un relent de tribalisme et de dissension ethnique comme en 1981. Devant cette situation, et en vertu des pouvoirs et des devoirs que me confère ma charte, je donne dès maintenant instruction aux forces de l'ordre de rétablir immédiatement le calme dans tous les quartiers troublés et la liberté de circulation sur tous les axes. J'ordonne aux autorités compétentes d'ouvrir une information judiciaire afin de déterminer les responsabilités et que les auteurs, comme les incitateurs de ces troubles, soient traduits en justice.
En réalité, la Centrafrique entre dans une nouvelle zone de turbulence. André Kolimba y fait face sans concession.
Il y aura une aide normale de la France à l'égard des pays d'Afrique. Il est évident que cette aide traditionnelle, déjà ancienne, sera plus tiède en face de régimes qui se comporteraient de façon autoritaire sans accepter l'évolution vers la démocratie et qu'elle sera enthousiaste vers ceux qui franchiront ce pas avec courage et autant qu'il leur sera possible.
Ce discours du président François Mitterrand va effectivement bousculer de nombreux dirigeants africains, puisque dans le sillage du vent de la glasnost partie de l'Est de l'Europe, il va faire tomber quelques régimes comme celui de Moussa Traoré au Mali. En Centrafrique, André Kolimba est lui aussi obligé de lâcher du lest. La pression de la rue, conjuguée à ce discours vécu par la plupart des chefs d'État comme une injonction, va amener le chef de l'État à revenir au multipartisme qu'il avait supprimé quelques années plus tôt. Nous sommes en 1991.
Désormais, tous les courants de pensée, toutes les sensibilités nationales pourront s'exprimer librement dans le cadre des partis de leur choix. Cela suppose naturellement la révision de la Constitution et l'adoption des textes y relatifs. Ceci dans un délai raisonnable. Parallèlement à l'action du Parlement, le gouvernement devra s'atteler à toutes les réformes nécessaires devant déboucher sur des élections libres. Fidèle à ma conviction dans la vertu du dialogue et de la fraternité et inébranlable dans ma détermination de conduire la République centrafricaine vers plus de liberté et de progrès avec la participation de tous, j'ai décidé d'accorder ma grâce à tous ceux qui sont actuellement détenus pour agitation politique, y compris des compatriotes arrêtés à la suite des scènes de violence caractérisées dont notre capitale avait été le théâtre les 13
octobre 1986.
Cette décision attendue ne va pas pour autant ramener le calme. Le chef de l'État va plus loin dans sa démarche d'ouverture au multipartisme.
Le président de la République, père de la nation, ne saurait écarter telle ou telle composante des forces politiques nationales. Par conséquent, président de tous les Centrafricains, garant de l'unité nationale, et dans l'intérêt du jeu honnête de la démocratie, je remets aujourd'hui mon mandat de président du Rassemblement démocratique centrafricain.
Partout en Afrique francophone, dans ce début de la décennie 90, c'est la période des conférences nationales souveraines. Le Bénin a ouvert le bal, et certains pays comme le Gabon, le Congo, le Mali et le Togo lui ont emboîté le pas. On y a vu des choses impensables, des chefs bousculés, humiliés, certains obligés de se retirer. Mathieu Kérékou du Bénin, Moussa Traoré du Mali et Denis Sassou Nguesso sont tombés. Ali Chebou du Niger aussi. André Kolimba est sous la pression de la rue qui réclame une conférence nationale souveraine pour la Centrafrique.
Le débat national, c'est une bonne chose. Mais c'est ce qu'on veut faire avec ce débat qui est mauvais.
Pourquoi refusez-vous la conférence souveraine?
Moi, je refusais la conférence souveraine.
La souveraineté, c'est le peuple qui détient la souveraineté. Ce n'est pas un groupuscule.
Ce que propose le président André Kolimba est un débat, mais pas une conférence nationale. Il n'en est pas question.
Ce débat national est l'affaire de tous. Ce n'est pas en refusant le dialogue ou en pratiquant la politique de la chaise vide que nous donnerons à nos enfants la possibilité de mieux vivre. Il va de soi qu'après avoir pris l'engagement dans nos discours de rendre exécutoire toutes les dispositions sur lesquelles un large consensus aurait été trouvé, je reconfirme cette position de principe. Tel est déjà le cas pour le code électoral, comme pour l'accès aux médias des partis politiques. Il va de soi. Il n'appartient pas aux formations participant à ce débat de s'ériger en une conférence nationale souveraine, c'est-à-dire une sorte d'assemblée constituante qui n'aurait aucun fondement constitutionnel ou légal, puisqu'il n'y a ni crise politique majeure, ni vacance du pouvoir.
Cette position de principe tiendra-t-elle longtemps face à la pression de la rue et des leaders de l'opposition qui désormais ont un cadre pour s'exprimer? Mais si le président venait à céder à cette exigence de conférence nationale réclamée par la grande majorité, lui survivra-t-il? Comment compte-t-il gérer cette situation difficile, surtout avec le regard de Paris qui a très clairement demandé un effort de démocratisation? On en parle la semaine prochaine dans la suite et la fin de cette série d'archives d'Afrique spéciale André Kolimba. Mais vous pouvez d'ores et déjà réécouter cette émission sur le site de RFI à la rubrique « Les émissions » ou sur le site archivesdafrique.com ou tout simplement sur votre portable, votre téléphone, en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur Google Play ou sur iOS. Nous attendons également vos réactions, vos commentaires sur notre page Facebook qui compte plus de 680 000 amis. La première sur notre antenne. Olivier Raoul, Delphine Michaud et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous samedi prochain, même heure, même fréquence, pour la suite de cette série d'Archives d'Afrique spéciale André Kolimba. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite.